on a un livre qu'on vous encourage à lire, mais pas du tout obligé pour le fonctionnement de la classe, mais c'est ce livre qui s'appelle « La raison est pour Dieu », un livre qui traite de plusieurs sujets différents qui peuvent ressortir dans un contexte d'évangélisation. Donc lorsqu'on partage la foi, des questions ou des objections principales qui sont données à la foi chrétienne, et donc le livre s'appelle « La raison est pour Dieu ». Et on utilise ça un peu comme un fil conducteur pour les thèmes. Certaines des classes vont suivre le livre pas mal. Aujourd'hui, on va aller un peu dans ce sens. D'autres classes un peu moins. Mais c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, peut enrichir votre apprentissage dans la classe. L'autre chose, si c'est un sujet que vous voulez creuser un peu plus par la suite, donc le sujet d'aujourd'hui qui est « Un Dieu d'amour n'enverrait personne en enfer », je recommande de lire le chapitre 5, donc de « La raison pour Dieu » de Timothy Keller. Un autre livre qui est, je crois, assez riche et assez utile, c'est celui qui s'appelle « Le problème de la souffrance » de l'auteur, un philosophe anglais qui s'appelle C.S. Lewis. Et il traite dans un sens plus large du problème du mal dans le monde et pourquoi est-ce qu'on peut avoir un Dieu d'amour et le mal qui coexiste dans ce monde et qu'est-ce que cela veut dire. Mais au chapitre 8, il va traiter dans le contexte du problème du mal de cette question de l'enfer et de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Et donc, il traite bien le sujet, à mon avis, et c'est quelque chose qui aussi vaut la peine d'être lu si vous avez la possibilité. Donc, si jamais vous voulez l'emprunter, et sinon, on le trouve encore en librairie chrétienne. La dernière chose, si vous avez envie de creuser le sujet dans la Bible, et ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, et vous ne savez pas vraiment où commencer, j'ai une liste de passages bibliques déjà imprimés en PDF. J'ai fait en 3 versions, comme ça vous pouvez aussi comparer. Et il y a environ 8 ans de passages différents qui traitent soit de la question du jugement de Dieu, de l'enfer et de la volonté de Dieu pour notre salut. Et si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, venez me voir et je vous envoie ça par mail. On n'aura pas le temps de tout voir. Je n'ai pas envie non plus que vous me croyiez sur parole pour tout ce que je dis. Donc si vous avez envie de creuser des écritures, mais vous voulez un peu un tremplin pour commencer, ça je vous l'offre volontiers, c'est ce que j'ai utilisé pour me préparer ce matin. On commence simplement en présentant cette question, une question qui peut revenir dans un contexte où nous parlons de l'Évangile et du salut. Une des choses que nous pouvons poser la question, bon, sauver de quoi? Et nous trouvons dans les Écritures l'enseignement au sujet, non seulement du jugement de Dieu, mais de la condamnation éternelle. Et une des réactions qui peut venir très rapidement, c'est comment est-ce qu'on peut parler d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de pardon et de grâce, et à la fois parler d'une condamnation éternelle qui vienne de la part de Dieu. Pour préparer nos sujets des 8 classes de ce semestre, on a fait une liste des sujets, on a envoyé aux enseignants, et j'étais le dernier à choisir les sujets. Donc devinez qui s'est collé, l'enfer, pour les classes. Dans son livre « Keller », il dit ceci. Dans notre culture, le jugement divin est l'une des doctrines les plus choquantes du christianisme. Et justement, le livre de Lewis dit ceci au sujet de l'enfer, une fois de plus. Ce dogme est l'un des principaux motifs pour lesquels le christianisme est accusé de barbarie et la bonté de Dieu est contestée. Et à mon avis, il n'est pas facile de parler de la question de l'enfer, même dans le contexte de l'Église et en parlant à d'autres chrétiens. Et je crois que c'est encore plus difficile de le faire avec des non-chrétiens qui sont formatés depuis leur jeune âge, de rejeter toute notion de jugement et de condamnation, et de voir cela comme étant complètement opposé à l'amour. J'aimerais rappeler que notre but dans ces conversations, ce n'est pas de rendre l'enseignement biblique au sujet de l'enfer populaire ou attrayant, ou même désirable. Notre but est de montrer que l'enfer fait partie de l'enseignement de Jésus, qu'elle est morale, c'est-à-dire elle n'est pas contraire à ce qui est bon, et qu'elle correspond à un Dieu d'amour et de justice, et qu'elle correspond aussi à la vérité. Donc mon but, ce ne sera pas à la fin qu'on sorte en disant « Ouais, l'enfer, c'est super !» D'accord ? Mais plutôt que nous nous rendions compte de ce que la Bible enseigne à ce sujet, et que nous ayons une fois de plus quelques pistes pour parler de ce sujet avec nos amis non-croyants. La question donc qui est donnée, si Dieu est amour, comment peut-il envoyer les gens en enfer ? Brady, dans une de ses études, nous a invités à corriger le tir, ça fait des années, mais il a dit « Puisque Dieu aime les humains, comment peut-il envoyer ces gens en enfer ?» Et j'aimerais qu'on regarde un peu cette distinction. Pour nous, la question commence avec cette réalité que Dieu est amour et que Dieu désire que nous ayons la vie éternelle avec lui. Alors pourquoi l'enfer peut-elle exister ? Pour nous, en tant que chrétiens, peut-être une des solutions de facilité, dans l'évangélisation ou dans la vie de tous les jours serait simplement de se passer de cet enseignement. Comme dit l'un des chants, et vous me direz le chanteur, mais on ira tous au ciel, n'est-ce pas? Ça c'était Paul Naref, d'accord. Bon, pourquoi ne peut-on pas affirmer cela aujourd'hui? Et la raison, très simplement, c'est parce que Jésus lui-même ne nous le permet pas. Juste quelques passages ici, et il y en a plus, mais Jésus parle de la condamnation de Dieu et du jugement lorsqu'il enseigne ses disciples. Dans Matthieu 10, verset 28, il dit ceci. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et ici, la personne donc, qui peut tuer l'âme et le jeter dans la géhenne, ça c'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Donc Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Dans Marc 9, les versets 47 à 48, il enseigne ceci. « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » Et dans la parabole ou l'image du jugement dernier avec les brebis et les boucs, ça c'est dans Matthieu 25, peut-être relire tout le chapitre une fois, la conclusion est celle-ci. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et ici, nous n'avons qu'une sélection, mais à plusieurs reprises, Jésus avertit et Jésus enseigne qu'il y aura un jugement qui vient de Dieu, un jugement définitif qui séparera ceux qui sont sauvés de ceux qui sont perdus. Et donc, vu que Jésus l'enseigne, nous avons une responsabilité en tant que ses disciples de faire face à cet enseignement et de ne pas l'ignorer. Mais nous pouvons quand même avoir quelques pistes pour l'aborder. Nous devons commencer, et ça c'est le point 3, en définissant ce qu'est l'enfer. On se trompe si on a en tête des petits diablotins qui, sous l'autorité de Satan, sont en train de s'amuser à torturer des âmes humaines pour l'éternité, un peu comme l'enfer de Dante. C'est certain que la Bible enseigne que l'enfer est un endroit, dans le sens spirituel, de souffrance. Mais lorsque Jésus utilise des images comme par exemple la flamme qui ne s'éteint pas ou le ver qui ne meurt pas, comme nous venons de lire, cela n'est pas en train de décrire une torture physique, mais plutôt d'essayer de décrire ou nous donner une idée de la souffrance qui vient d'une séparation éternelle d'avec Dieu. En fait, Jésus est en train de dépeindre une scène terrible, mais pas littérale, d'accord, de nouveau, ce n'est pas des diablotins qui brûlent des gens, mais qui veut décrire cette séparation avec Dieu. Le passage qui est une description, on va dire, la plus littérale de l'enfer se trouve probablement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. Et en parlant de ceux qui persécutent les croyants et qui refusent de mettre leur confiance en Jésus, Paul dit ceci. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ici, nous avons 2 idées. La première, c'est l'idée d'une ruine éternelle qui décrit un état de corruption perpétuelle. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de guérir ou de sortir de cet état. C'est une corruption définitive. On ne peut pas se dire, bon, demain, je m'améliorerai. Demain, ça ira mieux. Et il n'y a pas de guérison pour la deuxième raison, et le deuxième élément important, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a une séparation de la présence de Dieu. Or, sans la présence de Dieu, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de transformation de vie ou de changement. Toute espérance pour une amélioration de l'état disparaît à cause de l'absence de Dieu. Donc, 2 idées. 1, c'est une corruption éternelle et perpétuelle, ou irréversible, on pourrait dire. Mais la deuxième, et ça c'est le plus important, c'est une séparation d'avec Dieu. Et donc, ce que Jésus enseignait, et les apôtres par la suite ont souligné, c'est qu'en refusant Dieu révélé en Jésus, en se séparant de lui par nos péchés et par notre incrédulité, on se coupe de la source de toute vie. On se coupe de la source de tout bien. Et une fois coupé de celui qui est la source du bien et de la vie, cela nous condamne à rester dans notre propre corruption. Une fois coupé de celui qui est la source du bien, nous sommes condamnés à rester dans notre propre corruption. Parce que nous ne pouvons pas nous en tirer nous-mêmes. Différentes images sont donc utilisées dans le Nouveau Testament pour parler de cet état de condamnation ou de corruption éternelle. Jésus, son mot préféré, c'était la géhenne, qui probablement vient du terme en araméen pour la vallée de Hinnom, qui est une vallée en dessous de Jérusalem. Et c'était une vallée qui, premièrement, était connue dans l'Ancien Testament comme la vallée où on brûlait les enfants vifs comme sacrifice aux dieux païens. Et plus tard, c'était devenu aussi apparemment une décharge publique, un lieu où on brûlait les ordures dont on voulait se débarrasser. Et Jésus donc utilise cette image du grand dépôt, cet incinérateur des ordures, pour montrer ce qui est rejeté, ce qui est contraire à Dieu et ce qui est détruit et consumé. L'Apocalypse, au chapitre 20 et 21, utilise l'expression « l'étang de feu » et aussi « la seconde mort ». Et Jésus et les autres, donc, ils ont utilisé des illustrations tirées de la vie courante pour parler de l'enfer. Et ces scènes sont censées faire redouter l'avenir de ceux qui rejettent Dieu. Avec cette image donc d'une poubelle où c'est les flammes et les vers qui dévorent, l'image d'une seconde mort, l'image d'une corruption éternelle et de souffrance. Mais de nouveau, ces choses servent à décrire la réalité qui vient du fait que l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça, c'est l'événement, la réalité qui est derrière l'enfer. Dans Matthieu 7, 23, Jésus décrit le jugement et c'est à la fin du sermon sur la montagne. Ce sermon qui parle, entre autres, d'aimer ses ennemis, de ne pas juger et toutes ces choses. Mais voici ce que Dieu réserve à la fin. C'est Jésus qui parle. Donc Matthieu 7, verset 23. « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et une fois de plus, donc, le jugement final et définitif, ce n'est pas l'idée d'une torture méchante ou mesquine de la part de Dieu ou du diable et de ses démons. Mais c'est une réalité bien plus terrible lorsque nous y réfléchissons, parce que c'est la séparation définitive de Dieu. Nous croyons, et Jésus affirme, que Dieu est la source de toute joie, de tout amour, de tout bonheur, de toute bonté, de toute paix, de toute joie qui puisse exister. Qu'aucune de ces choses ne peut exister en dehors de la présence de Dieu. Rien de cela ne peut exister sans lui. Et donc, si on est coupé de Dieu, impossible de vivre avec amour, d'avoir de la joie, de la paix, du bonheur et ces autres choses. Il ne reste plus que le malheur de notre propre existence loin de Dieu. Il serait bien, lorsque nous parlons avec nos amis non-croyants du jugement et de l'enfer, de souligner cette réalité-là. Que si on rejette Dieu, cela a des conséquences. Et que le fait d'être coupé de Dieu, c'est cela qui cause toutes les souffrances et les peines. Ce n'est pas Dieu qui est là en train de faire mal aux âmes pour l'éternité, mais plutôt les âmes coupées de Dieu qui perdent toute possibilité de vivre dans le bien, dans le bonheur et dans la joie. Si on se coupe du bien, on ne peut pas attendre le bien. Et donc cela nous amène à une autre piste de discussion, parce que les gens ne vont peut-être pas l'accepter, mais il faut au moins montrer que la Bible parle de ça, que l'enfer est si terrible, non pas parce que Dieu est en train de nous faire mal, ou le diable ou autre chose, mais parce qu'on est coupé de Dieu. Et tout ce qui est bon vient de lui. Mais alors pourquoi l'enfer existe-t-il? On pourrait dire, bon, Dieu est tout-puissant, Dieu est tout bon, il pourrait empêcher cette réalité. Dans son livre « Les fondements du christianisme », Lewis dit qu'il faut éviter le christianisme simpliste. Il dit souvent les réponses sont compliquées parce que la réalité est compliquée. Une jambe, c'est quelque chose de très très compliqué lorsqu'on commence à le regarder. Et toutes les raisons du plan de Dieu et pourquoi il a fait chaque chose, c'est assez compliqué. Donc juste deux idées sans prétendre que nous répondons à toutes les questions, toutes les complexités ici. Mais la première chose sur laquelle nous devons insister, c'est qu'un Dieu d'amour doit rétablir la justice dans le monde. Si Dieu est un Dieu d'amour, il doit rétablir la justice. Et peut-être que dans l'ordre des classes, on a pris les choses un peu à l'envers, et on aurait dû commencer avec la classe. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Parce que vous savez, une des réponses à ce problème du mal dans le monde, c'est le jugement dernier. Donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais bon, on fait l'ordre qu'on a, donc on va assumer et continuer. Vous savez, une des grandes questions de la vie que tout le monde va se poser et qui est beaucoup plus difficile que la question de l'enfer, c'est la question de l'injustice qui n'est pas punie dans cette vie. Cela, ça gêne les gens beaucoup plus que l'enfer. Et cela devrait nous gêner. le fait que Dieu permette le mal. Les psaumes, on parle très souvent, mais le psaume 74 ou 74, verset 10, dit ceci. « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il ? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ?» Et le psalmiste pose cette question. Malgré sa foi en Dieu, il dit « Mais où es-tu ? Pourquoi le mal subsiste-t-il ? » Dans son cours « Le dessein de Dieu », Max Donner dit ceci. « Si on additionne tous les crimes restés impunis, et tous les torts non redressés à travers les siècles, la question de l'injustice ne paraît que plus grave. Justice sera-t-elle faite un jour, ou bien la mort exclut-elle cette possibilité ? » Nous entendons souvent que Dieu ne peut pas être amour ou juste s'il permet le mal, ou laisse le mal impuni. Mais Dieu nous promet que cela ne sera pas l'état final des choses. Dieu retarde son jugement, actuellement et très souvent dans l'histoire, mais il promet qu'un jour, tout mal sera redressé. Et l'avenir des coupables et des innocents ne sera pas pareil. Dieu promet de rétablir la justice un jour. Et donc dans Actes, chapitre 17, verset 31, lorsque Paul prêche aux Athéniens, il dit ceci, « Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. » Et ça, c'est important. Ce n'est pas selon son caprice, mais selon la justice. Nous vivons tous, lorsque nous sommes confrontés au mal et à l'injustice, avec un besoin que justice soit faite. Nous ne sommes pas doués pour accomplir cette justice par nos propres moyens, mais nous avons ce désir que justice soit faite. Et il n'est pas normal qu'une personne qui passe toute sa vie en opprimant les faibles, en abusant des pauvres, en mentant et en trichant, puisse vivre une vie longue, confortable, sans une conscience qui l'accuse, et mourir dans le confort, alors ceux qui sont opprimés et qui appellent à Dieu pour la délivrance ne voient rien. Cela n'est pas normal. Mais si la mort, c'est la fin, ou si on va tous au ciel et il n'y a pas de jugement, ça, c'est l'injustice de Dieu. Et cette injustice trahit un manque d'amour de Dieu. Parce que les faibles sont opprimés, on abuse d'eux, et Dieu ne fait rien. Il ne s'offusque pas que les innocents soient attaqués. Cela ne le dérange pas, s'il n'y a pas de jugement, bien entendu. Cela ne le dérange pas que les innocents souffrent et qu'il n'y ait aucune conséquence. Cela n'est pas compatible avec l'amour. L'amour n'est pas indifférent et l'amour n'est pas passif. Vous le savez, l'amour s'insurge lorsque ceux qui sont aimés sont abusés, maltraités et détruits par les injustes. On est capable de supporter un peu d'injustice pour nous-mêmes, mais quelqu'un maltraite nos parents, ou nos frères, ou nos sœurs, ou maltraite notre époux, ou notre épouse, ou nos enfants, alors là nous disons quelque chose doit être fait. Justice doit être rendue. Et cela n'est pas motivé par notre caprice ou notre haine, mais par notre amour pour ceux qui souffrent. Bon, cette réalité est vraie pour Dieu aussi. Et donc, l'auteur irlandais Jim McGuigan dit dans son commentaire sur l'Apocalypse ceci. « Proclamez-le bien haut. Justice sera faite. Un jour viendra où toute iniquité commise sur la terre recevra sa juste rétribution. Les coupables paieront. Alors tous ceux qui ont été volés, trompés, violés, exploités, intimidés et poussés aux abois, toutes les victimes regarderont les méchants et les coupables comparaître devant le tribunal de Dieu. » Je crois sincèrement qu'une des raisons que notre culture a tellement de difficultés avec la doctrine de l'enfer, c'est parce que nous subissons très peu d'injustices. Et vous savez, à travers l'histoire, la doctrine de l'enfer n'était pas difficile pour la plupart des peuples. Et même aujourd'hui, c'est un enseignement qui n'est pas particulièrement difficile pour les non-occidentaux. C'est un problème particulier à nous, et je crois que la raison, c'est parce que nous ne subissons pas beaucoup d'injustices. Et nous ne comprenons pas ce besoin que Dieu rétablisse la justice, et ce lien entre la justice et l'amour. Mais pour ceux qui sont en train de souffrir et d'être persécutés, pour ceux qui voient le mal triompher jour après jour dans leur société, dans leur vie, leur question n'est pas « Pourquoi est-ce que Dieu juge un jour ?» Leur question c'est « Dieu, pourquoi est-ce que tu attends ?» Pourquoi est-ce que tu attends ? Comment aborder cela avec nos amis non-croyants ? Une des questions c'est « Que font-ils de ce besoin de justice ?» S'ils croient en un Dieu d'amour qui ne juge pas, comment répondre à ce problème de l'injustice dans le monde ? Est-ce que Dieu peut être amour s'il est indifférent. Et s'il croit que tout est effacé par la mort, qu'on finit notre vie dans un certain degré de confort psychologique et physique, et ce qu'on a fait pour y arriver dans notre vie ne change rien, si on a abusé des gens, si on a été honnête, si ça c'est tout ce qui est notre vie, c'est une vision du monde et de la vie désespérante, n'est-ce pas? Nous disons la justice n'existe pas, ce n'est qu'une illusion qui ne correspond à aucune réalité. Autant profiter de la situation. Autant maltraiter les autres, si tout ce qui compte, c'est comment nous terminons notre vie. Mais l'enseignement de la Bible, c'est que Dieu va un jour détruire le péché, le mal et la mort. Et si Dieu ne le faisait pas, il ne serait pas digne d'être adoré. Comme McGuigan dit, on pourrait craindre un Dieu qui ne juge pas, mais on ne pourrait pas l'aimer et l'adorer, parce qu'il tolère le mal. Par contre, Dieu désire détruire le péché sans détruire le pécheur. Et ça, c'est le deuxième point dont il faut parler, au sujet des raisons du jugement. Dieu désire détruire les péchés sans détruire le pécheur avec. Et là, donc, nous avons une responsabilité. Et donc, pourquoi y a-t-il un jugement? Un, parce que justice doit être faite si Dieu est un Dieu d'amour. Mais l'autre raison, c'est parce que Dieu nous dit qu'il respecte notre choix. Dieu nous a donné dignité et liberté afin que nous puissions vivre dans une relation d'amour et personnel avec lui. Les automates ne peuvent pas aimer. Un automate, une machine, ne peut pas avoir de sentiments, ne peut pas aimer, ne peut pas choisir. Mais Dieu ne nous a pas créés en tant qu'automate obligés de lui obéir, de l'aimer et de lui dire oui. Pour rappel, l'enfer, c'est la séparation de la présence de Dieu. Et cette séparation n'est pas voulue par Dieu, elle est voulue par ceux qui sont condamnés. Ceux qui ne désirent pas être dans la présence de Dieu. Et ça, c'est les Écritures qui l'enseignent. Dans Jean 3, versets 19 et 20, en parlant d'un jugement présent, mais qui a des implications plus larges, il dit ceci, « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. » Dans notre vie maintenant, tous profitent et récoltent les bénédictions de Dieu, même si on rejette Dieu lui-même. Dieu fait que le soleil se lève sur tous, que la pluie tombe, que nous ayons les bénédictions de la joie, de la famille, de l'abondance, souvent dans la vie, que nous puissions faire l'expérience de la compassion et de l'amour profond. Et la raison pour cela, c'est parce que Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Dieu ne nous permet pas de le rejeter entièrement. Mais Dieu dit qu'un jour, il va nous laisser le rejeter une fois pour toutes. Dans ce jour où Dieu va détruire le péché, Dieu arrêtera de s'imposer à nous. Il ne dira plus « Je reste dans ta vie même si tu ne m'aimes pas ». Il nous dira « Vous ne vouliez pas de moi dans votre vie. D'accord, je me retire de vous. Je n'interviendrai plus dans votre éternité. Vous vivrez sans moi. » Sauf que vivre sans Dieu, ce n'est pas vraiment vivre. Et donc nous avons ces mots de corruption et de damnation qui décrivent cette existence ou quasi non-existence de souffrance séparée de Dieu. Un des caractéristiques donc de Dieu est son amour, mais un des aspects de l'amour, c'est de permettre à l'autre de choisir et d'aimer en retour. C'est le respect qu'a Dieu pour nous et pour nos décisions. Et le désir du cœur de Dieu, c'est que nous l'aimions et que nous lui disions oui. Jésus s'est donné entièrement à nous pour que nous puissions dire oui à Dieu. Mais si nous disons non, si nous le rejetons, Dieu ne va pas commettre un viol spirituel. Il ne va pas nous forcer à l'accepter. Un jour, à force de dire « Dieu, je ne veux pas de toi », Dieu dira « Je respecte ta décision, retire-toi de moi ». On ne peut pas dire en même temps « Dieu, je ne veux pas de toi » et « Dieu, pourquoi t'es-tu séparé de moi ?» Ces choses sont incompatibles. Et donc, Dieu nous invite maintenant à examiner ce que c'est de vivre avec lui maintenant en vue de l'éternité. Parce que Dieu ne désire pas que nous soyons séparés de lui. Dans Romains 1, verset 28, nous lisons ceci, au sujet du jugement de Dieu. « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée. Là, le jugement de Dieu est décrit comme Dieu qui dit « Faites comme vous voulez. Je vous livre à vous-même. » Et l'enfer, c'est cela sur un plan éternel. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas cela. Dans Matthieu 23, verset 37, Jésus dit ceci « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. » Un des enseignements choquants de la Bible est que nous pouvons haïr Dieu et choisir le mal. Cela devrait nous choquer. L'autre enseignement choquant de la Bible, c'est que Dieu va nous permettre de le faire. Il ne va pas nous forcer à faire autrement. Mais si nous sommes séparés de Dieu une fois de plus, si Dieu dit « je vais respecter votre choix », nous nous retrouvons sans issue possible, parce que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Et nous nous retrouverons donc coupés de la joie, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Et il ne restera que notre égoïsme et notre misère. Je ne sais pas si au lycée, gymnase, collège, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais vous avez dû lire Huis clos de Sartre. C'est ces trois personnes qui, après leur mort, se retrouvent enfermées dans une salle d'attente et commencent à discuter. Et à la fin de la pièce, qui est en huis clos, donc ils sont les trois enfermés, ils se rendent compte qu'ils sont en enfer et qu'ils vont passer l'éternité les trois ensemble. Et voici ce que dit le personnage principal. « Tous ces regards qui me mangent, ah, vous n'êtes que deux ? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle plaisanterie. Pas besoin d'un grill. L'enfer, c'est les autres. » Bon, Sartre s'est trompé, mais il était presque là. L'enfer, c'est nous-mêmes, livrés à nous-mêmes sans Dieu. Pas besoin des autres pour cela. Louis le décrit comme un égoïsme entièrement refermé sur soi-même, misérable et sans espérance. Cela ne signifie pas que nous serons heureux. Dieu nous donne ce qu'on veut, cela ne veut pas dire qu'on est heureux. Pas plus qu'un toxicomane n'est heureux une fois qu'il ou elle a eu l'occasion de reprendre de la drogue. Mais c'est ce que ceux qui seront condamnés auront choisi librement. Et ceci n'est qu'une analogie. Mais si vous passez un peu de temps en maison de retraite ou en visitant les personnes âgées, vous savez qu'il y a des gens qui sont pleins de joie et qu'il y en a d'autres qui sont pleins d'amertume. Et il existe des personnes qui sont très âgées et qui vivent dans la solitude et dans la misère parce qu'ils sont en conflit et ils refusent de pardonner aux membres de leur famille. Et donc, ils sont malheureux et ils sont tout seuls. Ceci n'est qu'une analogie, d'accord ? Ce n'est pas une comparaison parfaite, loin de là, de l'enfer. Mais ces personnes-là détestent la solitude et la rancœur dans laquelle ils vivent. Mais ils détestent le pardon pour ceux qui leur ont fait du mal encore plus. Et ils préfèrent vivre dans leur misère que de se réconcilier avec les membres de leur famille. Et donc, je parlais avec un aumônier qui avait plus de 20 ans d'expérience. Il disait « Ah, mon travail, c'est d'amener les gens à la réconciliation avant qu'ils meurent. » Il dit « Ça, c'est un de mes travaux, une de mes missions principales. » Mais ne nous faisons pas d'illusions. L'être humain est capable de choisir le mal plutôt que le bien, de préférer le mal. Et c'est ce qui se passe, un des aspects de ce qui se passe dans l'enfer. J'aime bien ce que Louis pose comme question à la fin de la discussion au sujet de l'enfer. Il dit « En fin de compte, la réponse à tous ceux que rebute la doctrine de l'enfer est elle-même une question. Que demandez-vous à Dieu de faire ? D'effacer leurs fautes passées et à tout prix de donner une nouvelle chance à ces êtres en aplanissant toute difficulté et en leur offrant toute aide miraculeuse nécessaire. » Mais il l'a fait, sur le calvaire. De leur pardonner, ils ne veulent pas être pardonnés. De les laisser tranquilles, hélas, je crois que c'est ce qu'il fait. Compte tenu donc de ces deux réalités évoquées ci-dessus, du besoin d'un jugement, si Dieu est amour, mais aussi du fait que Dieu va respecter notre décision, j'aimerais quand même mettre en garde contre deux excès qu'on peut faire en parlant de cela, d'accord ? Même si on ne le pense pas parfois, on va le dire. Et c'est deux manières erronées de parler du jugement de Dieu. Dans l'ordre inverse, parce que nous avons une responsabilité qui est pleinement la nôtre face au jugement, parfois on est tenté de dire « Dieu n'envoie personne en enfer » ou « Dieu ne juge personne okay ». Dieu n'est pas un Dieu de jugement. Et j'aime beaucoup cette manière de parler. Le problème, c'est quoi ? C'est que la Bible ne parle pas comme ça de Dieu. Jésus ne parle pas comme ça du jugement dernier. C'est-à-dire, Dieu veut insister qu'il est pas passif dans le jugement, qu'il a une décision qu'il prend et qu'il est quand même le juge dans ce jugement dernier, même si c'est un jugement basé sur notre propre choix. Et si nous disons « bon, Dieu ne juge personne », un des problèmes, c'est que nous contredisons les Écritures et nous avons une responsabilité de ne pas le faire. L'autre, c'est les personnes avec qui nous discutons. Bon, ils risquent de lire la Bible et nous dire « bon, ce qu'on m'a dit et ce que je lis, ça ne correspond pas. Soit on est en train de me mentir, soit ces personnes ne croient pas aux Écritures. Dans les deux cas, je vais voir ailleurs. » Bon, ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que nous voulons être fidèles aux Écritures. Nous devons insister sur notre responsabilité. La Bible le fait. Mais nous n'avons pas le droit de présenter Dieu comme quelqu'un de passif parce que lui-même ne veut pas qu'on le voit ainsi. Et de nouveau, peut-être c'est lié à notre problème de ne pas comprendre l'injustice dans notre culture. Mais l'autre abus de langage est inverse. Et ceci, je l'ai lu en préparant cette étude. Quelqu'un a écrit, « Dieu pourrait sauver tout le monde, mais il ne le fait pas car il désire manifester sa justice. » Donc, cette personne a dit « Dieu pourrait sauver tout le monde, mais il ne le fait pas. Okay? Parce qu'il désire manifester sa justice. » Je suis désolé, ça c'est faux aussi. Nous avons raison d'insister sur la justice de Dieu, mais de prétendre que Dieu ne désire pas sauver tout le monde, c'est faux. Les Écritures le contredisent. On a déjà vu Matthieu 23, verset 37, mais j'aimerais qu'on utilise ça comme un tremplin pour une autre piste pour parler avec vos amis. Et c'est le fait que Dieu ne veut pas la condamnation de qui que ce soit. Il a tout fait d'ailleurs pour l'éviter. Ça c'est le point 5. La volonté de Dieu pour nous, et là, je parle nous au sens large de l'humanité, c'est que l'enfer existe, mais Dieu ne souhaite pas que nous y allions. C'est une réalité tragique, mais c'est parce que c'est une réalité qu'il en parle, pas parce qu'il le désire. Dieu veut nous empêcher à tout prix d'aller en enfer. Et nous pouvons partager ces enseignements avec les gens. Bon, Jean 3,16, peut-être qu'ils l'ont même entendu, mais nous lisons ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le monde, c'est tout le monde. D'accord ? Tout le monde. Dieu aime tellement le monde, veut tellement sauver les êtres humains de la condamnation et de la mort, qu'il a donné son propre Fils par amour. Vous voulez savoir à quel point Dieu nous aime et ne désire pas notre jugement ? Regardez le prix qu'il a payé pour que nous ne soyons pas séparés de lui. 1 Timothée chapitre 2, les versets 3 et 4. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ézéchiel 33, verset 11. Dieu dit à Israël, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël. » De Pierre, chapitre 3, verset 9, qui dit « Le Seigneur ne retarde pas sa promesse de jugement ici, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Pierre est en train de dire à l'Église persécutée jusqu'à la mort que la raison que Dieu ne les sauve pas de la persécution, c'est qu'il veut sauver leurs persécuteurs. Dieu est prêt à nous laisser souffrir et même mourir pour sauver les injustes. Ce qu'il a fait de son Fils, il est prêt à le faire de son assemblée aussi. Voilà l'amour de Dieu. Voilà à quel point Dieu déteste l'enfer, s'il est prêt même à nous laisser mourir pour sauver des injustes de l'enfer. Est-ce que nous avons réfléchi à cela dans notre engagement avec Dieu? La tragédie de l'enfer, c'est que l'enfer n'est pas nécessaire. L'horreur de l'enfer, c'est que l'enfer est contraire à la personne même de Dieu. L'enfer semble si horrible et contraire à la nature de Dieu parce que justement c'est contraire à la nature de Dieu. C'est l'opposé de Dieu, c'est le rejet de Dieu. Mais Dieu ne va pas nous forcer à l'aimer. Et j'aimerais quand même souligner cela sans nous attarder là-dessus. Dans la pratique, okay, on parle en théorie un peu aujourd'hui, ce sera des discussions philosophiques avec les gens. Dans la pratique, les gens ont beaucoup plus de peine avec le pardon que Dieu demande de nous qu'avec son jugement. On est prêt à critiquer le jugement de Dieu jusqu'à ce qu'on soit obligé de pardonner à quelqu'un. Et là, on a vraiment un problème pratique avec Dieu. Et ça, peut-être mentionnez-le à vos amis. Vous savez, dans mon expérience, en parlant avec les non-croyants, ils ont beaucoup plus de peine quand Jésus dit « pardonnez à vos ennemis » que lorsqu'il dit « il y aura un jugement ». Lorsqu'on nous fait du mal, nous avons beaucoup plus de peine à accepter que nous devons les pardonner que d'accepter que Dieu pourra le juger un jour. Mais Dieu nous dit de nous ranger du côté du pardon. Ça, c'est son enseignement pour nous. Et nous avons cette conviction, j'ai juste mis deux passages ici, c'est que quand le jugement vient, le jugement dernier sera juste. 1 Pierre 1, verset 17. « Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de notre séjour sur terre. » Une des promesses de Dieu, c'est que la punition ne sera pas disproportionnée au péché. Qu'il ne va pas s'emporter comme un juge ou une émeute humaine, mais plutôt qu'il rendra tout selon la justice. Et lorsque nous serons face à Dieu, nous pourrons affirmer, et tous pourront affirmer, pas juste les chrétiens, que Dieu est juste. Une des raisons que nous savons cela, c'est que Dieu dit qu'il va juger à travers Jésus-Christ. Jésus mort et ressuscité et à la droite du Père. Jean 5, verset 22. « De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » C'est-à-dire le jugement divin va s'effectuer par Jésus. Et si nous aimons Jésus et si nous lui faisons confiance, bon, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est lui le juge. Mais en même temps, ne sous-estimons pas la gravité du péché et notre capacité à rejeter la lumière. Mais nous savons, et nous pouvons le dire, que, en tout cas les Écritures nous disent, il n'y aura aucun jugement injuste de la part de Dieu. Ça, c'est une promesse. Un point, l'avant-dernier point avant de terminer, on aura un petit moment de questions. Mais Keller parle de ceci, c'est parfois cette idée donc, que la doctrine biblique de l'enfer est source d'oppression et d'injustice. C'est-à-dire, c'est plus ou moins ceci. Si nous croyons à l'enfer, alors nous divisons notre tête, le monde en deux. D'accord ? Les gentils qui vont au ciel et les méchants qui vont en enfer. Par conséquent, les gentils ont raison d'opprimer les méchants pour toutes sortes de raisons. Peut-être que les méchants vont amener d'autres en enfer avec eux. Peut-être que les méchants vont faire du mal aux gens ici et donc il faut amener la justice nous-mêmes. Trois corrections à dire. La première, c'est qu'il n'y a pas de gentil. Si nous n'avons pas compris ça, bon, de toute façon, faites-le, mais faites la lecture du Nouveau Testament en un an avec Esteban. Commencez aujourd'hui. L'évangile, c'est qu'il n'y a pas de gentil, mais que nous méritons, ceux qui ont choisi le péché, méritent la condamnation, mais que nous avons reçu gratuitement la grâce de Dieu. Si nous croyons en l'évangile, nous ne croyons pas que nous sommes du camp des gentils, mais de ceux qui reconnaissent qu'ils sont les méchants. Et donc cela change comment nous voyons les autres aussi. Deuxième chose, c'est que la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse. Ça, c'est notre conviction. Et cela, il faut y tenir tout autant que la croyance dans l'enfer, que Dieu ne désire que personne y aille. Et la vie de quelqu'un qui n'est pas sauvé est donc précieuse, parce que c'est une vie à sauver. Ceux qui croient en Christ, qui ont donné leur vie à lui, leur vie est sauve. On ne peut rien nous faire. Nous sommes invincibles, en fait. Jésus a dit, c'était à Marie et Marthe, « Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. » C'est seulement ceux qui désirent donc la condamnation des autres qui vont voir ce monde en séparé en deux et désirer la perdition de ceux qui sont perdus. Et ceux qui le font sont opposés à Dieu, ils sont ennemis de Dieu. Si vous désirez la condamnation de quelqu'un, bon, peut-être émotionnellement vous le sentez, d'accord ? Quelqu'un tue quelqu'un de votre famille, je ne suis pas en train de vous dire « il faut se sentir bien à l'égard de cette personne ». Mais si nous désirons la destruction de ceux que nous n'aimons pas, nous sommes opposés à la pensée de Dieu. Et donc, il y a cette conviction qui est là. Et la troisième chose, finalement, c'est que dans la Bible, le jugement de Dieu est la base de la non-violence chrétienne. Et ça, on a vu déjà il y a trois semaines, mais il y aura quelques passages et cette citation de Keller. Il dit « Le désir qu'a l'homme de faire payer leurs crimes aux auteurs des violences est une impulsion presque irrésistible. On ne peut la combattre avec des platitudes telles que « Ne vois-tu pas que la violence ne résoudra rien. » C'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile de le vivre. Et si nous croyons que la mort efface tout, et que ceux qui terminent la vie dans le confort psychologique et matériel ont gagné, alors on va chercher la vengeance et la justice nous-mêmes. Mais voici ce que nous disent les Écritures, deux passages dans Romains. Romains 14, verset 10. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » 1. Ne sois pas le juge, parce que nous avons un juge devant qui nous allons comparaître. Et si nous sommes impitoyables, nous ne pouvons pas attendre la pitié de Dieu. Mais l'autre, c'est Romains 12, versets 17 à 19. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Une des raisons, vous savez, que le christianisme est rejeté et même haï dans le monde, peut-être pas dans notre culture, c'est parce qu'il prône la non-vengeance et la non-violence. Et les gens désirent que justice soit faite maintenant de nos propres mains. La Bible dit non, laissez Dieu agir. Le fait que Dieu va juger un jour nous libère de cette responsabilité de prendre les choses entre nos propres mains. Et donc, une des bases fondamentales de l'amour pour les ennemis et de chercher le bien, c'est la conviction que Dieu s'occupera de la justice. Ça, c'est très différent de l'idée que si nous croyons dans un jugement de Dieu, nous allons faire du mal aux autres. Vous avez été très patient, juste une petite exhortation pour la fin. Et ceci n'est pas confortable à dire, et encore moins à faire. Mais nous devons parfois, et surtout lorsque ces conversations sortent, mais confronter les gens à la réalité de leur propre mort et de leur propre culpabilité. De dire, vous savez, un jour nous allons mourir. Et il y a quelque chose ou rien qui nous attend derrière. Mais cela vaut la peine d'y réfléchir et de s'y préparer. De faire face à la réalité de notre mort. Et de faire face à la réalité de notre culpabilité. Vous savez, le péché, ce n'est pas juste un problème dans votre vie. Vous savez la lutte avec le péché et la corruption qui peut exister dans nos propres cœurs, même maintenant. Ne pensez pas que c'est seulement vous qui êtes affecté par cela. Si nous ne faisons pas face à notre mortalité et à notre culpabilité, nous vivons des vies pleines d'illusions. Il y a déjà des siècles maintenant, mais Pascal a écrit dans Les Pensées, « Rien n'est si important à l'homme que son état. Rien ne lui est si redoutable que l'éternité. Et ainsi qu'il se trouve des hommes indifférents à la perte de leur être et au péril d'une éternité de misère, cela n'est pas naturel. » Et donc, une partie de l'évangélisation, ce n'est pas juste d'expliquer l'enfer et de calmer un peu le jeu, mais c'est de secouer les gens, parfois. Nous avons un problème avec le péché et le mal dans notre vie. Et nous allons mourir. Et nous ne faisons pas cela beaucoup, d'accord? Mais dans les Écritures, nous trouvons déjà cet enseignement, Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et en vue de cette réalité, voici ce que Paul faisait à Athènes, Actes 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte, ça c'est sa prédication, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Bon, quelle conclusion à une prédication évangélique, n'est-ce pas? Il dit, il y a un jugement qui vient, et il vous appelle à la repentance. Dans Actes 2, verset 40, ça c'est Pierre qui prêche. À la fin de cette prédication, on connaît Actes 2, 38, « Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon des péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais voici sa conclusion résumée, d'accord? Par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Une partie de l'évangélisation, c'est d'appeler les gens à une prise de conscience et à se sauver. Il y a une falaise et les gens sont en train de marcher à côté et nous disant « Reviens. » Pas en étant meilleur que les autres, pas en vous sauvant par vous-même, mais en acceptant ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous pouvons dire cela, et ça c'est ma conclusion. Dans toute humilité, nous pouvons dire à nos amis, je crois que nos choix dans cette vie ont des conséquences éternelles. Et je désire être avec toi pour l'éternité. Pourquoi ne pas au moins lire les évangiles? Pourquoi ne pas au moins prier à Dieu à ce sujet? Et je veux bien le faire avec toi, car je t'aime et Dieu t'aime encore plus. On va prendre quelques minutes pour des questions, si vous avez des questions ou des remarques. En tout cas, dans le sens du Nouveau Testament, on le trouve nulle part. Il y a un passage dans, il me semble, c'est 2 Maccabées, qui est un des livres apocryphes donc, de l'Ancien Testament, ou deutérocanonique, comme l'appellent les catholiques, qui pourrait appuyer l'idée d'un purgatoire. Mais en général, l'enseignement est venu quand même très tardivement dans l'histoire de l'Église, plusieurs siècles après les commencements de l'Église. Et c'était en fait à la base une doctrine pour rassurer les gens. Okay, ils se sentaient coupables au sujet de leurs péchés. Plutôt que regarder à Christ, on disait « Bon, t'inquiète pas, Dieu va te purifier de tous tes péchés, tu vas payer pour tout le mal que tu as fait, et ensuite tu pourras aller au ciel. » Les méchants ne vont pas au purgatoire. De nouveau avec cette idée de méchants gentils. Hein. C'était l'idée, ceux qui vont aller au ciel, Dieu va les détruire tous leurs péchés en eux avant qu'ils puissent y aller. Le gros problème, c'est, ça contredit l'enseignement que Jésus a tout payé. Nous disons non, Dieu paye une partie, et puis ce qui est éternel, nous payons ce qui est temporel. Et donc, ça, c'est un des problèmes. Ouais, qui vient de... les pénitences, les indulgences, ouais, toutes ces choses-là. Donc la remarque, c'est est-ce qu'on n'est pas déjà en enfer si on rejette Dieu? Dans un certain sens, oui, et dans un autre, non. Dans le même sens que la vie éternelle commence maintenant, si nous sommes en Christ, et l'enfer commence maintenant si nous sommes loin de lui. La grande différence, c'est premièrement, Dieu est toujours présent dans la vie de ceux qui le rejettent dans cette vie. Sa grâce, sa miséricorde, son amour est toujours présente, même lorsqu'il est rejeté. Et là, il y a une rupture qui arrivera au jour du jugement. Ça, c'est une des différences fondamentales. Donc, spirituellement parlant. Mais Dieu est toujours présent, est toujours à l'œuvre dans les pires des vies, même si on a parfois de la peine à le voir. Et Dieu dit, un jour, il va cesser. Et donc, là, il y aura une distinction. Mais est-ce que cette séparation commence maintenant? Absolument. De nouveau, Lewis, il creuse ce thème dans un de ses romans qui s'appelle Le Grand Divorce, qui est souvent pris comme une doctrine du ciel, mais en fait, c'est une réflexion à travers une histoire au sujet de l'effet du péché dans notre vie pour nous séparer de Dieu. Et il dit lui-même, je ne parle pas vraiment du ciel et de l'enfer, mais plutôt de ce que le péché nous fait à notre âme et fait à notre relation avec Dieu. Et donc, il y a cette idée, oui, effectivement, notre vie est sur une trajectoire. Mais à notre mort, nous solidifions cette trajectoire, en quelque sorte. Si c'est être ancré en Christ, Christ devient tout. Si c'est nous séparer de Dieu, cette séparation devient tout. Peut-être dans ce sens-là. Ouais, une des choses sur lesquelles nous pouvons insister, je crois, c'est d'un point de vue biblique, la notion d'un salut individualiste. D'accord, individuel, oui, mais individualiste n'existe pas. On ne trouve pas de chrétiens divorcés de l'Église. Parce que, comme tu as dit, on est baptisé en Christ, mais pour former un seul corps, pour entrer en lui. Donc oui, il n'y a pas d'être en Christ sans l'Église. Ça n'existe pas. Et donc nous laissons à Dieu le soin de s'occuper des cas X et Y, mais nous devons affirmer cela dans nos échanges avec les gens dans l'enseignement. Ça, c'est certain. Il y avait encore une ou deux questions. Oui. Est-ce qu'il y a un passage qui dit qu'on va tous être, on va tous passer devant le jugement? Donc, un des passages, juste pour le lire comme ça, vous l'avez, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, qui nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Donc, que dire, tu parlais donc les musulmans qui disent qu'il y aura un jugement, mais nous, notre confiance est en Christ. Comment concilier la confiance en Christ avec un jugement? Une des choses que la Bible enseigne, c'est qu'il y aura un jugement et on va passer devant ce jugement. Alors, quel sera le rôle de Christ en cela? Il est le juge, mais il est aussi notre avocat. Ça, c'est une des choses que les Écritures nous enseignent. Je crois qu'il faut insister sur le fait que nous aurons à rendre compte de nos vies, même nous, d'accord? Cela n'enlève pas le pardon et la grâce de Dieu, mais il y aura un jugement devant lequel nous passons. Mais nous savons que ce jugement ne va pas aboutir à la condamnation, à cause de Christ, pas à cause de nous. Mais que nous y passons tous, ça semble être l'enseignement biblique. Il n'y a pas un seul passage qui parle de cela, mais qui dit que, ouais, on devra faire face à ce qu'on a fait dans notre vie. Mais on n'y fait pas face seul, et notre confiance vient du fait que c'est Christ qui est notre avocat. Donc, sinon, je ne sais pas comment d'autres en prennent ces passages, qui disent, effectivement, c'est pas comme si les chrétiens, on regarde le jugement dernier, mais on participe pas. On participe, mais nous serons innocentés par Jésus et par sa grâce, pas par nous-mêmes. Et ça, c'est une grande différence.